Depuis quelque temps, je reprends la Bible. Enfin, je lis la Bible du début jusqu'à la fin. J'essaye, en tout cas, de m'y appeler. Et j'aime bien voir dans la Bible quand David, par exemple, ou d'autres personnages, où Dieu dit, est-ce que je peux aller au combat? Et de suite, Dieu, d'un claquement de doigts, me dit, oui, tu peux y aller. Qu'est-ce que j'aimerais ce genre de réponse quand je prie le Seigneur? Seigneur, est-ce que je peux faire ceci dans mon ministère? D'un claquement de doigts, mais oui, Nicolas, vas-y, c'est le temps, c'est le moment. Mais j'avoue personnellement que des fois, j'ai pas de réponse. Et je dois attendre un certain temps avant que le Seigneur me réponde. Je dois attendre certaines années avant que Dieu décide de me répondre. Et je dois avouer que ça doit forger sûrement ma patience vis-à-vis du Seigneur. Je dois avouer aussi que quand on traverse une épreuve, un moment difficile dans notre vie, eh bien, on a besoin de patience. Le Seigneur n'a pas permis que je sois parent. J'ai été tonton, je suis toujours tonton, mais le Seigneur n'a pas permis qu'on ait des enfants. Mais quand je vois vous, parents, la patience que vous manifestez vis-à-vis de vos enfants, je me dis, waouh! Ça, alors là, ils ont vraiment, c'est du solide, hein, c'est du béton, parfois vis-à-vis de certaines situations. Moi, peut-être j'aurais agi un petit peu avec un peu moins de patience, ou peut-être Dieu m'aurait donné de la patience pour gérer certaines situations. En tout cas, je vous le dis souvent, mais à la maison, mon père disait une parole. Il n'y avait pas besoin d'en dire 36 à la maison de parole, il y avait un silence complet. Aujourd'hui, quand je vois certains papas se s'égosifier pour dire « silence, reste à table !» Je me dis « waouh, il y a de l'autorité à la maison qui se perd parfois. » Mais bon, voilà, c'est comme ça, on est dans un monde nouveau, mais je me dis, le monde change, c'est vrai, et les parents ont besoin d'une grande patience. J'ai vu personnellement, un jour dans une grande surface, un enfant crier parce qu'il voulait un jouet. La maman ne voulait pas lui donner le jouet. Eh bien, l'enfant s'est accroché au caddie, et la maman était en train d'avancer dans l'allée, et l'enfant était allongé par terre, en train de crier pour vouloir le jouer. Mais la maman a persévéré, elle a continué, tant pis s'il crie, je dois sortir de ce magasin parce que je ne veux pas lui acheter un jouet. Oui, je pense que vous avez besoin de patience. Un vieux proverbe hollandais dit, une poignée de patience vaut mieux que 20 kilos de cervelle. C'est un proverbe hollandais. J'ai transformé ce proverbe, ça c'est le proverbe de Nicolas. Il y en a qui ont une poignée de cervelle pour 20 kilos de patience. Ça c'est mon proverbe à moi. Et c'est vrai que j'avoue que bien souvent, la patience est quelque chose qui est nécessaire dans notre humanité. J'ai vu dans une citation, dans un livre, « La patience est un arbre, donc les racines sont amères, mais donc les fruits sont très doux. » Voilà une belle citation. Et dernièrement, j'ai entendu dans une citation un chrétien qui disait « Seigneur, donne-moi de la patience, mais pas tout de suite. » Attends un peu. Ça, c'est une demande vraiment sincère dans son cœur. Seigneur, donne-moi de la patience, mais pas tout de suite. Attends un petit peu avant de me donner de la patience. Alors, si vous voulez bien, on va regarder un peu ce que la Bible dit sur la patience. J'ai donné une introduction, mais je crois que la Bible donne beaucoup de choses, dit beaucoup de choses sur la patience, et ça mériterait en tout cas toute notre attention pour que ce fruit soit un fruit que nous puissions développer ensemble dans dans l'église locale, ou dans la vie personnelle aussi, dans la vie du quotidien. On a besoin de développer ce fruit de l'esprit. Dans la pensée biblique, persévérance et patience sont sœurs jumelles. Si vous regardez pas mal de textes dans la Bible, on n'arrive pas à séparer ces deux mots, et en grec, ce mot a la même racine. Donc, quand on regarde certains passages de la parole de Dieu du Nouveau Testament, eh bien, souvent ces deux mots sont affiliés, sont mis ensemble pour les tribulations et les épreuves. Je voudrais vous donner deux versets pour citation, par exemple Romains, chapitre 7, verset 3, qui nous dit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Donc dans l'idée, d'accord, c'est la patience, hein, c'est la même pensée dans le grec. Deuxième passage qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4, qui nous dit « Ainsi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Les Thessaloniciens étaient considérés comme des personnes persévérantes dans leur foi parce qu'ils étaient persécutés pour leur foi de tous les jours, et l'apôtre Paul le note en tout cas dans cette lettre pour manifester cette patience. Ça, c'est la pensée, donc la définition de la patience dans la Bible. Mais quand on lit la Bible dans son ensemble, on s'aperçoit que Dieu a vraiment manifesté de la grande patience vis-à-vis de son peuple. Et si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, il suffit de prendre un petit peu de temps de voir que Dieu a caractérisé, en tout cas le temps avec Israël, il a vraiment manifesté de la patience. Vous avez ce passage qui se trouve dans Néhémie, Néhémie chapitre 9, où Néhémie va publier un jeûne public à un moment donné, et il va rassembler Israël sur la place publique, et il va manifester, il va rappeler à Israël tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Et voici ce qu'il va dire à un moment donné. « Nos pères se livrèrent à l'orgueil, verset 16 du chapitre 9, « Vos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. » Verset 17, « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Dans le même chapitre, je vous laisse prendre le temps dans la semaine de le lire, dans le même chapitre, eh bien, il va faire tout un récapitulatif de tout ce que Dieu a fait pour Israël. Il a donné la vie à sa création, verset 6. Il a choisi Abraham à qui il a promis le pays, verset 7 et 8. Il a opéré des miracles, verset 10. Il a fait paraître sa gloire, verset 10. Il les a conduits, en parlant de conduite, c'est dans le désert. Hein, ce n'était pas sur la Costa Brava, ni sur la Côte d'Azur. Hein. Il les a conduits dans le désert, verset 12. Il a donné des commandements excellents, verset 13. Il a pourvu du pain et de l'eau, verset 15. Il a donné un pays, verset 15. Et voici ce qu'il dit au verset 17. Ils tournèrent le dos à Dieu. Ils tournèrent le dos à Dieu. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ça, pour moi, c'est dire clairement à Dieu, mais on n'en a rien à faire de tout ce que tu as fait dans notre vie. Ils ont mis en oubli les merveilles que Dieu a faites. Allez, on va rappeler un peu les merveilles que Dieu a faites à Israël. Ils ont vu la traversée de la mer Rouge. Il a éliminé leur ennemi. Il leur a donné du pain et de l'eau. dans le désert. Et je me dis combien de fois, nous dans notre vie, Dieu nous bénit. Dieu nous accorde des grâces merveilleuses dans notre vie. Il n'est pas obligé de faire cela. Il n'est pas obligé de nous donner des choses, Dieu. Et pourtant, Dieu nous donne et nous donne et nous donne sans cesse. Il n'y a rien d'obligation vis-à-vis de Dieu. Et Israël a eu pour, en tout cas, attention vis-à-vis de Dieu. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Soyons honnêtes, combien de fois nous mettons dans l'oubli les merveilles que Dieu a opérées dans notre vie. Combien de fois nous les mettons de côté. Moi, je pense que ça mérite en tout cas toute notre attention de ne pas oublier les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Alors, on peut s'attendre, on peut croire, on peut penser que Dieu va dire, ben, vous m'oubliez, ben moi je vous châtie. Moi je vais vous montrer, si vous vous mettez de côté, vous allez voir que je vais vous montrer. Non, non, c'est pas ce que Dieu fait. Romains chapitre 9, versets 22 et 23. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire reconnaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour sa gloire. Si vous vous posez la question pourquoi Dieu agit avec miséricorde, pourquoi Dieu aujourd'hui encore, par l'an 2000, prend du temps, c'est qu'il veut pousser les hommes et les femmes à la repentance. C'est ce que vous trouvez dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu agit avec miséricorde, si Dieu agit avec bonté, si Dieu agit avec patience, c'est qu'il veut pousser les gens à se repentir. Vous savez, quand je regarde l'humanité, on se dit, mais Seigneur, arrête-moi tout ça. Arrête tout ça, viens me chercher. Prends-moi dans l'éternité avec toi. Oui, sois patient, Nicolas. J'ai encore quelques Français, j'ai encore quelques Antillais, j'ai encore quelques Africains peut-être, ou j'ai encore quelques personnes qui doivent venir au ciel. Et je pense que bien souvent, dans notre vie, on oublie cette bonté de la part de Dieu, celle qu'il a agi dans notre vie. Dieu a besoin aussi de la manifester avec d'autres personnes. Même si le monde est hostile, même si le monde est dans la rébellion, même si le monde est dans la désobéissance, Dieu est patient et il est lent à la colère. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Moi, je le suis. Convaincu dans mon cœur, Dieu est patient et il est lent à la colère. Dans la Bible, nous voyons aussi la patience de Jésus. Il suffit de lire Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3, où on s'aperçoit que la Bible nous dit qu'il a affronté la mort de la croix, sans tenir compte de la bonté attachée à la honte attachée à un tel supplice. Pensez à la lutte qu'il a eue à soutenir contre les hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissant pas abattre par le découragement. C'est ce que la personne qui écrit aux Hébreux, il est en train de rappeler, ben, regardez ce que le Seigneur a fait. Fixez les yeux sur le Seigneur Jésus, et si vous passez par un moment difficile, eh bien, ayez le regard sur Jésus. En réflexion à ces quelques pensées, je pense qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Moi, je vous le dis franchement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à avancer. Quand il y a une personne qui vous critique, quand il y a une personne qui vous blesse dans la vie, quand il y a une personne qui vous fait du tort dans la vie, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer cette pensée dans mon esprit. Vous savez, dans cette société, c'est on rend mal pour mal. Tu me fais du mal, je te rends du mal. Dans notre société, c'est comme cela que cela se passe. Tu me fais du mal, je te rends du mal. Avec le Seigneur Jésus, avec l'Esprit de Dieu, nous devons avoir une réaction complètement différente. Tu me fais du mal, mais moi je t'aime. Voilà ce que nous devons dire. Tu me fais du mal, mais au lieu de me venger, je vais prier pour toi. Je vais demander l'aide de Dieu dans ta vie. Je vais demander que Dieu change ton cœur, qu'il change le mien, parce que je ne suis pas encore parfait, mais qu'il change aussi le tien. Et je pense que c'est important de le voir que sans l'Esprit de Dieu, on ne pourrait pas avancer. Alors, comment la pratiquer, cette patience, dans notre vie de tous les jours? Eh bien, le Seigneur permet parfois certaines situations. La maladie. Vous savez, des fois, cette maladie qui nous tient au lit, qui ne nous fait pas sortir de notre lit. Ma femme me dit souvent pour plaisanter, pour me taquiner, quand je suis au lit, je suis une chochotte, très simplement. Quand je suis cloué au lit, c'est vrai que le gaillard que je suis, quand je suis au lit, moi, je peux devenir qu'une chochotte. Mais en fait, quand on a 40 degrés de fièvre, quand on a des douleurs dans le corps, franchement, parfois, ça nous mérite de réfléchir un petit peu que la douleur, quand même, n'est pas quelque chose qu'on est habitué. Personnellement, je ne suis pas habitué. Et je ne la cherche pas non plus, la douleur. Hein? Il y en a qui la cherchent, moi, je ne la cherche pas, la douleur. Donc, quand je suis au lit, c'est difficile, n'est-ce pas, d'être cloué au lit. Mais le Seigneur veut, dans ce moment-là, eh bien, que nous puissions pratiquer la patience. Tant que vous êtes debout, vous êtes merveilleux. Quand vous êtes allongé, que vous ne pouvez plus bouger sur le lit, alors là, on demande à Dieu de la patience. Dans les difficultés de la vie, on a besoin de pratiquer ce fruit de l'esprit. Vous savez, si, je le dis souvent, si notre vie serait un long fleuve tranquille, ça serait merveilleux. Hein? Si tout irait bien, si on avait 365 jours du soleil, on demanderait la pluie. Eh oui, on demanderait la pluie. On demanderait même la neige de temps en temps. Hein? Ma belle-mère criait souvent au travers de la fenêtre, je voudrais voir de la neige. Ah oui, elle était antillaise. Donc la neige, c'est pas quelque chose qui vit aux Antilles. Même si le climat change, aux Antilles, il n'y a pas encore de neige. Ça viendra peut-être. Un jour, je ne sais pas. Mais en attendant, voyez-vous, quand on est dans certaines situations, quand on vit certaines difficultés, eh bien, le Seigneur nous donne la possibilité de pratiquer ce fruit de l'esprit. Mais même quand tout va bien, hein, vous devez aussi pratiquer le fruit de l'esprit qui est la patience. Parce que si vous attendez la maladie, si vous attendez l'épreuve, si vous attendez le deuil, si vous attendez la difficulté dans votre vie, le fruit de l'esprit de la patience peut aussi se manifester quand vous avez un long fleuve tranquille dans votre existence. John Knox, un réformateur écossais, a dit « L'épreuve, les difficultés sont des aiguillons utilisés par Dieu pour nous propulser dans une vie de dépendance et de prière plus riche et plus profonde. » J'aime beaucoup cette citation. Parce qu'à chaque fois que j'ai passé par un moment difficile dans mon existence, bien je me suis rapproché plus de Dieu. C'est incroyable quand même. J'aime tellement le Seigneur, je me dis, mais quand j'ai passé un moment difficile, je me suis rapproché de Dieu. Incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Dieu veut. Parce que quand il y a dans notre vie un long fleuve tranquille, quand tout va bien, quand, je dirais, il y a de l'abondance à la maison, quand tout est bien et bon, est-ce qu'on s'approche réellement de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quand tout va mal qu'on s'approche de Dieu. Quand on vit des moments difficiles, on se dit, oh là là, peut-être que j'ai oublié de lire ma Bible, peut-être que j'ai oublié de prier, peut-être que j'ai oublié de prendre du temps avec le Seigneur, peut-être que j'ai oublié de prendre du temps avec les frères et sœurs dans la prière. Dieu nous montre parfois nos limites et nous avons besoin de nous le rappeler que la puissance de l'Esprit est nécessaire dans ces moments-là. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon père et ma mère n'ont jamais voulu nous acheter des vélos. Jamais. Jamais. Il a fallu que j'économise dur pour acheter un vélo. Mais mon père et ma mère n'ont jamais voulu acheter un vélo. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant d'acheter un vélo. Pour ne pas citer les marques, mais il y a des vélos pas très chers. Mais mes parents n'ont jamais voulu m'acheter un vélo. Et un jour, une amie de mon père est passée par là. J'ai trois vélos qu'ils ont fait la guerre, dans un cave. Ils sont en train de me déranger, donc est-ce que tu les veux? Mon père a dit, ben oui, trois vélos, merveilleux. Alors, on va donner un à ma sœur, un à mon frère, et un à moi-même. C'était le miracle. On n'avait pas de vélo à la maison, c'était le miracle. Mais les vélos d'avant la guerre, c'est pas les vélos d'aujourd'hui, hein. Moi, je voudrais quand même vous rappeler, on m'a dit que j'ai des cheveux blancs, mais je voudrais vous rappeler que les vélos à la guerre, c'était des roues pas avec des gommes que vous avez aujourd'hui, merveilleuses, hein. C'était des roues dures et caoutchouteuses, hein. Pour faire un kilomètre, il fallait pédaler et dur, hein. Mais quand tout va plat, quand c'est plat, tout va bien. Mais quand il y a la pointe, alors là, vous voyez ma sœur, mon frère et moi-même, tout petits, on descendait de ces vélos et puis on montait la côte tranquillement à côté de ces vélos. Et puis quand est arrivé la descente, on remontait sur ces vélos et puis on redescendait la descente. C'est merveilleux. Tant qu'il n'y avait pas de côte, c'était merveilleux de faire du vélo. J'ai attendu quelques années. Et voilà qu'un jour rentre dans ma maison un vélo, ce qu'on appelait à l'époque le tout-terrain. Les 12 vitesses. Il suffisait d'appuyer sur un petit bouton sur le guidon pour changer de pignon. Vous savez, quand vous êtes sur une côte, de suite, tac, 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 on entendait ça, et puis alors c'était la merveille. Que vous soyez dans une descente, que vous soyez sur le plat, ou que vous soyez sur une montée, c'était merveilleux de faire du vélo. Je dirais avec plusieurs vitesses. Un simple petit, on appuyait sur un petit bouton et puis tout changeait notre vie. Alors vous avez bien compris que on a besoin dans les problèmes, dans les difficultés, d'un braquet de l'esprit. Quand tout va mal, on a besoin de ce Saint-Esprit qui est là pour nous continuer à nous faire avancer, pour rester patient, pour persévérer avec le Seigneur. On a besoin aujourd'hui de ce tout-terrain. Et je me dis merci Seigneur parce qu'il a mis en moi ce tout-terrain. Quand tout va bien, je peux louer le Seigneur. Mais quand tout va mal, je peux aussi louer le Seigneur. J'ai pas besoin de descendre de mon vélo. J'ai l'Esprit de Dieu, je sais qu'il va m'aider dans ces moments difficiles. Parce que Dieu a mis en moi cet esprit qui va m'aider à avancer, qui va m'aider à patienter dans telle ou telle situation, qui va m'aider à persévérer avec lui. La patience est indispensable aussi pour construire l'unité dans l'Église. Les Éphésiens en avaient besoin. Paul leur dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la paix qu'amour. » Vous avez entendu? Vous supportez les uns les autres. Waouh! J'aurais jamais imaginé que Dieu mette ce verset dans la Bible. Vous supportez les uns les autres. L'église locale a besoin de se supporter les uns les autres. Nous avons besoin de nous supporter dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous avez, et j'ai besoin de la patience, j'ai besoin d'humilité, de douceur pour vous supporter, comme vous avez besoin sûrement d'humilité, de douceur et de patience pour me supporter. Parce que penser que je suis un être parfait, alors là, moi je vous encourage à aller voir ma femme à la fin de ce culte, et pour lui demander, Nicolas, est-ce qu'il est parfait? Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Hein. Et encore, je suis persuadé qu'elle va être gentille. Parce qu'elle m'aime, elle m'a toujours dit qu'elle m'aimait. Donc automatiquement, elle va être patiente dans les mots qu'elle va donner. Mais vous avez aussi, l'apôtre Paul a donné 1 Corinthiens, chapitre 13, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On devrait s'en inspirer de ce chapitre. Dans le foyer, on devrait s'en inspirer. Entre époux et épouse, on devrait parfois s'en inspirer de ce chapitre. La persévérance est indispensable pour croître et pour progresser dans la foi. Ils persévéraient, ils étaient assidus, constants dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Je pense qu'on a besoin de s'en inspirer, de cette persévérance et de cette constance dans la persévérance. On a besoin des uns et des autres. Que vous le vouliez ou pas, on a besoin des uns et des autres. J'ai été étonné, mais je l'entends régulièrement, ce chiffre. Alors, ça m'arrive de l'oublier. Je ne savais pas qu'en Martinique, il y avait besoin de 7 pasteurs. Je me suis posé la question, mais ce n'est pas resté longtemps. Hein. Dans mon esprit, quelques secondes, tiens, peut-être un ministère peut se développer en Martinique, ma femme martiniquaise, mais ce n'est pas resté longtemps hein, dans mon esprit. Je voudrais quand même vous rassurer. Quand il m'a dit qu'il fallait 1000 pasteurs en France, ouais, ça rend quand même humble. Hein. Mais voyez-vous, on a besoin d'y penser parfois dans notre esprit. On est dans un pays qui est dans la rébellion la plus totale. On est dans un pays qui refuse Dieu de plus en plus. Regardez tous les médias, regardez ce que vous voulez dans le sens de ce que nous vivons à l'heure actuelle. Des fois, on se dit, on sourit avec les gilets jaunes. Hein. Mais je me dis franchement, des fois, ça me met en colère, entre guillemets. Ça me met parfois en colère. Hein. Ils sont prêts à détruire des entreprises qui se lèvent le matin pour travailler dur, hein, certains. Ils sont prêts à détruire certaines. Alors, je comprends les réclamations, je comprends les gens. Hein, c'est pas qu'on veut se mettre à part, hein, mais je me dis, mais ils sont devenus fous. Ces gens-là sont devenus fous. Je dis souvent, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus, ces gens-là. Vous savez, quand ils sont sur les ronds-points, ils ont besoin de Jésus. Et je pense que nous avons besoin de se dire, mais il faudrait peut-être se mettre à genoux pour prier pour ce pays qui a besoin de Jésus. On a besoin peut-être de réfléchir à ça ensemble, de se dire, tiens, mais cette région a besoin de Jésus. Cette région a besoin vraiment qu'on se mette à genoux parce qu'elle a besoin de Jésus. J'ai des gens à la maison qui ont besoin de Jésus. J'ai un enfant qui ne marche pas avec Jésus, donc j'ai besoin de vous pour que vous priez pour moi, pour qu'il vienne à Jésus. Je voudrais terminer la prédication par une histoire vraie. Au début de mon ministère, j'aimais bien lire les biographies des hommes célèbres, vous savez, les personnes qui ont marqué l'existence à un moment donné dans l'Église. Et un personnage qui m'a marqué, c'est Georges Müller. J'en ai souvent parlé, ici, de Georges Müller, mais c'est un homme qui a marqué le 19e siècle par des orphelinats en Angleterre. Mais cet homme marchait par la foi. à un tel point que pendant toute sa vie, où Dieu l'a laissé ici-bas sur cette terre, il a prié pour 5 amis. Il avait à cœur, alors je suppose qu'il y avait d'autres personnes, hein, puisque le Seigneur lui a confié d'autres situations, mais finalement, il a prié pour 5 amis dans son quotidien. Tous les jours, quand il se levait, il a prié pour ces 5 personnes. Au bout de 18 mois de prière, le premier est devenu chrétien. Vous pensez qu'il a arrêté? Non. Il a dit, j'en ai encore 4 et je vais prier tous les jours pour eux. Au bout de 5 ans d'intercession, le deuxième a accepté Jésus. Vous savez, je connais ma vie de prière. Il y a bien des fois, ça ne dure pas très longtemps. Il y a bien souvent, on est découragé. Vous savez, quand Dieu ne répond pas, on abandonne bien souvent. Et moi, je me dis, voilà un bel exemple de persévérance et de patience. Au bout de 5 ans, le deuxième ami est devenu chrétien. 6 ans après, le troisième est devenu chrétien. Il a accepté Christ dans son cœur. Au bout de 6 ans de prière, 365 jours sur 365, il priait pour ses amis, pour qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur. Il a attendu juste avant la mort pour que le quatrième accepte Jésus. Juste avant la mort de Georges Müller, il a vu son 4e ami venir à l'Évangile. C'est pas merveilleux ça? Vous allez me dire, le 5e alors? Il n'a pas vu. Georges Müller n'a pas vu qu'il est venu à l'Évangile. Eh bien, dans sa biographie, il est dit que le 5e ami a attendu le décès de Georges Müller pour bien des années après se convertir. Je me dis, Dieu a entendu et a vu la persévérance de cet homme. Alors vous allez me dire, oui, il n'a pas vu le 5e, oui, Jésus l'a vu. Et c'est ce qui compte, Dieu l'a vu. Dieu a vu fidèlement cet homme se lever tous les matins et prier pour ses 5 amis. Et c'est ça qui compte, mes frères et sœurs. C'est pas nous. C'est ce que nous faisons pour Dieu qui compte. Et voyez-vous, son intérêt, c'était ses 5 amis. Tous les matins qu'il se levait, il priait pour ses 5 amis. Et ils sont tous venus à l'Évangile. Tous. Nous avons besoin de nous en inspirer de cette patience et de cette persévérance, de nous encourager aussi à continuer à aller de l'avant. Je voudrais vous citer une citation de Charles Spurgeon, grand prédicateur. Voici ce qu'il a dit un jour dans une prédication, et ça sera la fin de la prédication pour ce matin. Du temps de Noé, dans sa persévérance, l'escargot a bien fini à atteindre l'arche. Je répète cette citation. Du temps de Noé, par sa persévérance, l'escargot a bien fini par atteindre l'arche. Oh, que nous puissions nous en inspirer. Que nous puissions nous en inspirer de cette citation. Soyons des hommes et des femmes patients. Cette vertu, Dieu l'honore dans notre cœur. Amen.